Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
On entend régulièrement dire qu'il faudrait que l'on se connaisse mieux à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. L'on est même incité à aller les rencontrer et à prier avec eux. Ils, ce sont les protestants, faute de temps ou d'amis protestants. Le dialogue œcuménique pour chacun d'entre nous peut avoir tendance à rester un vœu pieux. Un lieu peut cependant y aider, un lieu mal connu, pas assez connu, l'espace culturel protestant de Toulouse, rencontre. Voilà, cette émission Vivante Église ce matin, donc rencontre avec l'espace culturel protestant de Toulouse. Je reçois ce matin Didier Fievet, vous êtes théologien, pasteur de l'Église protestante unie de France à Toulouse. Bonjour.
Eh bien bonjour, bonjour à vous tous.
Robert Mangado, vous êtes membre du conseil d'administration de l'espace culturel protestant de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Et puis nous recevrons un petit peu plus tard dans cette émission François Vouga, qui est professeur donc, de Nouveau Testament à l'université de Wuppertal. C'est bien ça?
C'est ça.
Voilà. Alors, avant qu'on parle de l'espace culturel protestant, je voulais avec vous qu'on parte un petit peu à la découverte des protestants et des protestants de Toulouse et d'Occitanie. Alors, on va faire le protestantisme pour les nuls, parce qu'on sait qu'on est, écouté par des auditeurs très différents. Alors, je ne veux pas être désagréable avec les auditeurs en disant que certains sont nuls, mais tout le monde n'a pas le loisir soit d'écouter régulièrement des radios, soit de s'intéresser aux protestants. Qui vous êtes? Comment vous présenteriez les protestants, Didier Fievet?
Bah d'abord, on est toujours le nul d'un autre, donc il n'y a pas de complexe à avoir les uns par rapport aux autres. Et merci de votre invitation. Et c'est avec plaisir que j'essaye de répondre à cette question. Premièrement, protestant, ça vient d'un mot latin prononcé ou censé avoir été prononcé par Luther, et ça veut dire non pas être contre, mais ça veut dire se lever pour. Protester, ça veut dire se lever pour, et quand Luther dit ça, il se lève en disant « Je proteste de toute ma conscience, je suis lié par ma foi au Christ, c'est ce qui fait que je me lève pour cette foi. » Voilà. Et je crois qu'il faut entendre ça, parce que le protestantisme ne se définit pas, ou ne devrait pas se définir de façon négative comme étant le refus de quelque chose, mais comme étant au contraire la découverte spirituelle, exactement à la manière d'un Paul sur le chemin de Damas, hein, à la découverte spirituelle d'une réalité de foi qu'on peut contester, mais c'est ce qui constitue notre foi. Et je trouve qu'il y a une phrase de Luther qui résume ça très très bien, et qui dit tout simplement « Ce n'est pas parce que nous faisons du bien que Dieu va nous aimer. Mais c'est parce que Dieu nous aime qu'il peut nous arriver de faire du bien. » Renversement des prédicats. On n'a pas à prouver à Dieu qu'on l'aime et qu'on fait du bien pour cela, mais c'est parce qu'on s'assied, on s'assoit, on prend ancrage, on prend racine, on prend l'amour de Dieu comme étant la base indéfectible de notre vie, quoi qu'il arrive, que libéré de devoir justifier notre vie, libéré de devoir prouver qu'on aime, nous permet de faire un bien qui est un bien gratuit, un bien que, en général même, on ne sait pas avoir fait, qui nous échappe, parce qu'au fond, c'est le fruit de cet abandon à Dieu et non pas la volonté de prouver qu'on aime.
Alors, vous nous avez résumé à très gros traits quelle était l'intention de Luther. On va dire cette année, en tout cas, on fête les 500 ans de la Réforme, ouais, puisque c'est les 500 ans des publications des fameuses thèses de Luther. On a fait plusieurs émissions. On a parlé, entre autres, des 500 ans de la Réforme à l'occasion du voyage du pape François, ouais, donc en Suède.
À Lund. Ouais.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, peut-être très rapidement, ce que vous fêtez en cette année, de quoi vous faites mémoire?
Alors, je vais le dire sous la forme lapidaire du slogan de notre Église. 500 ans après, quelles sont nos thèses pour Dieu et pour l'humain? Pourquoi nous lèverions-nous aujourd'hui pour protester au nom de l'Évangile? Autrement dit, qu'est-ce que l'Évangile que nous recevons de Jésus-Christ, qui n'est pas la loi? Pour nous, l'Évangile n'est pas une nouvelle loi. Ce n'est pas un nouveau modus vivendi. Ce n'est pas un nouveau règlement, tu dois vivre comme ça. C'est au contraire la libération par rapport à toute loi qui permet de donner libre cours à l'amour de Dieu au travers de nous. Qu'est-ce que ça nous amènerait à dire pour aujourd'hui dans le monde, pour Dieu et pour les humains?
Alors peut-être rappeler juste quand même les thèses de Luther.
Alors les thèses de Luther,
1517,
c'est... 1517, c'est des thèses qui luttent contre les indulgences. Et ce que, bizarrement, alors je ne voudrais pas être trop technique, mais bizarrement, ce que reproche Luther aux indulgences, c'est de ne pas être assez sévère. Au sens où, mais finalement, vous vous fichez de la pénitence. Au sens où il vous suffirait, alors on rappelle qu'initialement il s'agissait simplement de se dispenser des peines temporelles. Hein, c'est pas le,
alors,
c'est
pas, il faut
c'est pas l'absolution qui s'achète.
Hein. Les indulgences, voilà, qui encore, voilà. ont encore cours dans.
Alors c'est autre. Oui, mais je voudrais pas.
Mais qui à l'époque était, on va dire, c'était une manière tarifée d'acheter son salut.
Ouais, là, c'est ça. Je voudrais pas rentrer en polémique là-dessus parce qu'il faudrait être beaucoup plus nuancé. D'autant que l'Église catholique a maintenu les indulgences et même qu'il y a un retour. Donc, je voudrais pas rentrer en polémique parce qu'il faudrait être beaucoup plus précis. Disons simplement qu'à cette époque-là. Alors que ce n'était pas la doctrine officielle, il y a eu une dérive dans l'Église catholique romaine, notamment avec l'ordre des Dominicains, qui faisait que à chaque fois qu'une piécette tombait dans l'urne, une âme était censée sortir du purgatoire pour aller au ciel. C'est là-dessus que Luther polémique sous la forme de thèse. Je dirais qu'à cet instant-là, il n'est pas encore protestant dans sa vie. Ça va venir un petit peu plus tard quand il va sortir du couvent. Mais vous voyez, ça devient un peu précis. Il faudrait lui consacrer toute une étude.
Voilà, en tout cas, il y a aussi l'autre grand motif de différents dehors des indulgences. Vous l'avez dit et cité au début de l'émission, c'est le primat de la grâce sur les œuvres. Est-ce que vous pouvez réexpliquer peut-être en quelques mots ce que ça veut dire ?
C'est tu n'es pas gracié à la fin de ta vie. Tu es gracié dès le départ du premier jour de ton existence. De sorte que ce qui te fonde, c'est justement cet amour que Dieu te témoigne. De sorte que ton premier mouvement, c'est celui de la reconnaissance et de la louange pour cette liberté reçue. Et ton second mouvement, qui sera peut-être éthique, c'est de laisser ta foi te porter vers ce que tu dois faire. Alors bien évidemment, quand je parle de la foi, là, je ne parle pas de ce qu'il convient de croire. Je parle de ce sentiment d'abandon de soi à l'amour premier de Dieu. Comme on s'abandonne à une amoureuse ou à un amoureux, comme on s'abandonne à quelqu'un au sens où on n'a plus rien à cacher, on n'a plus rien à prouver, on n'a plus qu'à laisser l'amour de l'autre agir en soi.
En tout cas, on sait que sur ce motif de grands différends aujourd'hui, catholiques et protestants, enfin, on le sait pas forcément, donc il est bon de le rappeler, on a trouvé comme un terrain d'entente, puisqu'il y a eu en 1999 une déclaration commune qui est une manière, en fait, de s'entendre sur ce qu'on entend dans ce primat de la grâce ou des œuvres, non? Enfin, on en a parlé plusieurs fois à cette antenne, c'est vrai que c'est pas très connu des auditeurs, donc ça vaut le coup de le rappeler.
Voilà, c'est ça, cet accord qui est signé en 99, qu'on a appelé un consensus différencié, c'est-à-dire une bonne façon de dire qu'on est d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord, tout en disant qu'on ne veut pas ne pas être d'accord.
Enfin, c'est quand même une étape très importante.
Oui, si vous voulez, c'est une étape. Elle n'a pas été signée par tout le monde, elle a été signée que par les catholiques et les luthériens, elle n'a pas été signée par le monde réformé, par exemple, au niveau mondial. L'Église catholique romaine ne fait toujours pas partie du Conseil œcuménique des Églises. Elle n'y est qu'en tant qu'observatrice. Elle n'en fait pas partie ex qualité en tant que membre. Moi, je crois beaucoup à un œcuménisme beaucoup plus modeste, un œcuménisme comme on le pratique ce matin, d'écoute, d'amitié, d'approche, d'interrogation mutuelle, d'accent différencié dans la pratique des choses. Je crois que fondamentalement, il y a sûrement de la place dans les Écritures à une pluralité d'interprétations. Je ne peux pas, pour ma part, faire autrement que de considérer l'Évangile tel que je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà.
Alors, si on continue cette découverte un peu du protestantisme, il faut aussi préciser, pour ceux qui ne le sauraient pas, alors pour ceux qui connaissent un peu le protestantisme, qu'il n'y a pas des protestantismes, mais il y a beaucoup d'églises à l'intérieur du protestantisme. Je ne sais pas si vous devez vous présenter à gros traits les grandes familles des protestants qui sont y compris représentées peut-être à Toulouse et en Occitanie. Qu'est-ce que vous diriez
Robert, tu fais partie du pôle FPF, non
Robert Mongado.
Non, pas spécialement. Enfin, l'espace culturel protestant en fait partie.
On fait partie, voilà, oui.
Alors, FPF, c'est quoi, juste
Fédération protestante de France.
Voilà.
Donc, grosso modo, alors là, on va faire très très court, hein, grosso modo.
C'est le but de cette émission.
Il y a deux grands courants
que
j'aime pas. Un courant qu'on va appeler historique, qui comprend les baptistes, qui va bientôt comprendre l'armée du salut, parce qu'elle commence à avoir de la bouteille, qui comprend, bien sûr, depuis plus longtemps encore, les églises libres, et qui comprend... l'Église libre étant peut-être l'Église la plus ancienne du point de vue historique. Ensuite, qui va comprendre l'Église réformée, qui s'est unie à l'Église luthérienne pour faire l'Église protestante unie de France.
Et c'est récent d'ailleurs, il faut le souligner.
Oui, c'était en 2013.
Il y a 2-3 ans.
Voilà, et on avait fait ça. Ça a été un long processus extraordinaire d'écuménisme et de respect de l'autre. C'était extraordinaire. Ces grands courants historiques, puis on a un certain nombre d'autres courants qui sont plus récents, moins historiques, extrêmement divers. Et je crois qu'il faut appuyer là-dessus, qui comprend ce qu'on appelle le monde évangélique, mais le monde évangélique lui-même, comprenant des courants baptistes donc, que j'ai classés du côté des historiques, des courants pentecôtistes qui commencent eux aussi à devenir un peu vieux, anciens, je ne veux pas dire que ce soit dépassé, c'est pas ça du tout, des courants charismatiques, toutes sortes d'églises, ça va dans tous les sens, on n'a pas d'instance centrale
de régulation. Comment vous pouvez expliquer pour des catholiques la diversité de ces églises, la multiplicité de ces églises? Ça fait partie de l'ADN protestant ou...
Bon, oui, c'est
et pourquoi?
C'est parce que la définition de l'Église pour nous, ça c'est une définition des réformateurs, la définition de l'Église, c'est un événement. Ce n'est pas une structure ni une institution. Qu'est-ce qui fait Église? C'est l'événement de la prédication, c'est-à-dire de la parole interprétée. La Bible n'est pas la parole de Dieu, elle le devient quand elle est interprétée. Donc c'est l'événement de la prédication. D'un côté, qui n'est pas un commentaire, vous entendez bien, mais qui est c'est exactement... Pour nous, la Bible, c'est comme une partition de musique. S'il n'y a pas un musicien derrière le piano, il n'y a pas de musique. Donc il faut que ce soit musique aujourd'hui. Ce n'est pas musique d'hier. Donc on ne va pas commenter, on n'est pas un musicologue qui va commenter en disant là, il y a un triolet, machin. On s'en fiche. Comment tu joues ton triolet aujourd'hui pour que ça résonne pour ce peuple-là? Que tu le joues en rap ou tu le joues en rhapsodie, ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, maintenant, événement de la prédication et célébration des sacrements. Voilà. C'est ça qui constitue l'Église. Partout où il peut y avoir cet événement, ce surgissement de la parole, il y a Église. Et du coup, personne ne peut mettre une barrière en disant « là, il n'y a plus Église. Dieu prend ce risque ». On prend ce risque avec nous.
Combien vous êtes de protestants à Toulouse et en Occitanie? Quels sont les grands foyers protestants? Est-ce que vous sauriez nous dire où est-ce qu'on peut trouver des églises? Quel type de protestants? Qu'est-ce que vous devriez nous faire un peu un paysage?
Alors, dans l'Albret et dans le Montalbanais, il y a un protestantisme historique très ancien, évidemment, qui a été cassé en partie par Napoléon, notamment à Montauban, parce qu'on a déplacé la faculté de Montauban à Montpellier pour des raisons stratégiques. À Toulouse, il y a eu des dizaines de milliers, je dis bien des dizaines de milliers, quand je suis arrivé à Toulouse, je ne voulais pas le croire, de protestants exécutés sous la révocation, ce qui vous explique que c'est assez décimé du point de vue... pour une grande ville comme Toulouse, je crois que le fichier de l'Église protestante unie de France doit recenser à peu près 600 foyers. Donc vous voyez, c'est très très peu par rapport
même
à...
Toulouse agglomération compris ou...
Oui. Aujourd'hui, des gens que nous, donc, qui ont été en relation avec notre Église pour demander un baptême, pour... à peu près 600 foyers, donc vous voyez, c'est pas grand-chose.
Pour une grande ville comme ça, c'est pas
énorme. Comme Toulouse, Alors, à côté de ça, une multitude d'églises évangéliques qui comprennent des fois... Alors, la particularité des églises évangéliques, c'est que ce ne sont pas des églises de multitude, ce sont des églises de confessants.
C'est-à-dire, quelle différence vous faites?
Eh bien, l'église de multitude, c'est comme l'église catholique romaine. Vous acceptez de baptiser des gens que vous ne voyez pas tous les dimanches à la messe, ou qui ne donnent pas le denier du culte, par exemple. Nous, on fait pareil. Tandis que les églises de confessants, ils ne comprennent que des membres qui sont très engagés et sont convertis, entre guillemets. C'est-à-dire, sont là tous les dimanches, et même le mardi soir pour la réunion de prière, et le jeudi pour la réunion d'évangélisation.
Et ces églises évangéliques, ça fait 600 familles aussi ou...
Ça fait beaucoup plus que ça.
C'est-à-dire
ça fait beaucoup plus que ça, parce que je pense qu'il y a quelques milliers, oui. Quand on fait un rassemblement tout protestant, on arrive à réunir à peu près 1 000 000 de personnes. Donc, il faut compter peut-être que c'est un quart, donc ça fait peut-être 4 000-5 000 personnes. Mais je suis peut-être léger.
Donc, Montalbanais, Toulouse, et pour le reste d'Occitanie.
Alors, il y a le Béarn, bien entendu. Le Béarn qui est aussi un foyer.
Aussi.
Et le Tarn. Le Béarn et le Tarn, il y a eu un désert comparable au désert des Cévennes dans le Tarn. Bon, ça va très vite, hein, je ne peux pas détailler.
Bien sûr, voilà. Peut-être pour finir, avant qu'on fasse une première pause, on a coutume, parfois on lit dans la presse justement que les églises qui montent dans le monde protestant, ça serait justement les églises évangéliques, particulièrement dans les périphéries des grandes villes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve ici à Toulouse? C'est ce que vous avez l'air de décrire.
Alors, il y a beaucoup d'églises évangéliques.
Qu'est-ce que ça, regroupe comme réalité c'est...
En même temps, il y a un grand turnover. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens. Il y a beaucoup de va-et-vient, si vous voulez que je le dise en français. Dans une église comme celle qui est une église modeste, comme l'église protestante unie de France, qui est peut-être celle qui a pignon sur rue pour des questions historiques, etc. Mais dans une église comme la nôtre, il faut compter qu'il y a à peu près un ou deux couples ou personnes par semaine qui frappent au temple en disant « on n'est pas protestant, on a fait le tour du net, on est intéressé, on veut être baptisé chez vous » ou « on veut… voilà. » Donc on n'est pas en perte de vitesse, on n'a pas une croissance exponentielle comme certaines églises évangéliques. Mais il y a aussi des églises évangéliques qui, après une phase exponentielle, connaissent soit une phase descendante, soit une phase de renouvellement qui fait que les chiffres ne sont pas aussi simples à interpréter. Voilà.
Voilà, en tout cas, merci pour ce bref panorama à la découverte des protestants, du monde protestant, enfin très bref, à Toulouse et en Occitanie, mais on aura l'occasion de revenir dans d'autres émissions. On va faire une première pause et puis après, on va plus particulièrement se pencher sur l'espace culturel protestant pour voir ce qui s'y passe.
Achève maintenant, déchire la toile de cette rencontre. Aux suaves blessures, aux délicieuses plaies, aux tendres mains, aux délicats touchés, éternelle gâchure qui toute dette paie. Tu as tué la mort. De caverne du sentiment, naguère obscur et creux, par d'étranges faveurs, donne chaleur et lumière à l'amant. Docile et amoureux, tu t'éveilles en mon sein, où tu demeures seul secrètement. Ton souffle savoureux, plein de gloire et de bien, m'emplit.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, ce matin, donc, cette émission Vivante Église rencontre avec l'espace culturel protestant de Toulouse. L'idée, donc, c'est de faire davantage connaissance avec nos frères protestants et, entre autres, avec ce lieu qui est un lieu auquel on peut se rendre, évidemment, et où on peut, rencontrer des protestants. Mais pas que, on va voir ça tout de suite. Je rappelle que nous sommes en plateau avec Didier Fievet, qui est théologien et pasteur de l'Église protestante unie de France à Toulouse, et Robert Mangado, qui est membre du conseil d'administration de cet espace culturel protestant de Toulouse. Et un peu plus tard, on sera avec François Vougard, professeur imminent, vous aviez l'air de dire, hein, d'exégèse entre autres, hein, c'est ça, grand exégète, ouais. Voilà, et professeur donc de Nouveau Testament à l'université de Wuppertal. Alors, l'espace culturel protestant, maintenant qu'on a fait ce zoom, même si en fait vous avez fait votre panorama du monde protestant très bref sur Midi-Pyrénées en fait.
Oui, j'ai limité à l'ancien Midi-Pyrénées, voilà. Parce que le monde Cévennes Languedoc-Roussillon, c'est tellement riche d'histoire qu'il lui fallu 5-6 émissions.
Science complète.
Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement, déjà, où est-ce qu'il se situe, l'espace culturel protestant, et puis, je ne sais pas, quand est-ce qu'il a été créé et quelle est sa finalité?
Oui, le lieu peut-être déjà. Robert Mangado. Il se situe, pour les Toulousains qui connaissent Toulouse, il se situe aux abords même de la place du Capitole, à la jonction entre ces trois rues que sont la rue Pargaminière, la rue de Ville et la rue Romiguière. Voilà. Donc un lieu, vous l'imaginez bien, particulièrement bien placé, un lieu de passage, les étudiants chemine depuis la faculté rue Valade vers la place du Capitole. Voilà, c'est un lieu qui est assez connu, les rues devenant piétonnières, c'est un lieu de passage. Dans ce lieu-là, pour l'histoire rapidement, qui a été affectée à la communauté protestante par Napoléon en 1800, je vais dire 7, mais ne m'en veuillez pas, mais venez donc à l'ECP, et il y a là une plaque qui indique la date exacte. Voilà. Donc, c'est un lieu qui est affecté à la communauté protestante depuis 1807, donc, dans lequel il y a régulièrement des cultes. Ça a été un temple. Il y a aujourd'hui, tous les dimanches, un culte. Ce lieu abrite aussi l'entraide protestante, et abrite aussi Carève, qui est une librairie.
Qu'est-ce que c'est que l'entraide protestante?
L'entraide protestante, qui est un peu...
C'est votre secours catholique à vous,
c'est ça? Pour aller vite, on va dire comme secours catholique. À la louche, c'est ça.
Voilà. Hein. Et en même temps, abrite aussi Carève, qui est notre librairie, entre guillemets, protestante, dans laquelle on trouve effectivement tout livre, bien sûr, que l'on peut commander, mais aussi particulièrement des livres traitant de théologie, de protestantisme, de religion, etc. Voilà.
Alors pourquoi ça a été créé en fait? Le but, quel est le but? C'est un lieu ressource pour le monde protestant? C'est un lieu d'accueil et de dialogue avec le monde contemporain?
Je pense qu'il était nécessaire d'avoir à côté des lieux plus conventionnels que sont les temples dans lesquels, culte le dimanche, etc. Un lieu peut-être un petit peu plus, entre guillemets, neutre, dans lequel chacun puisse être accueilli, se retrouver, et dans lequel on puisse partager, écouter, débattre, c'est tout le protestantisme qui est là aussi, débattre des faits de société, échanger les divers points de vue. C'est aussi une façon de témoigner dans la ville et d'être présent dans la ville de façon différente. Voilà, c'était certainement ça. Et au départ aussi, peut-être, autour de la parole, de la lecture, du livre, et Carève était le point de départ, peut-être aussi le point d'appui de cette implantation à ce lieu-là.
Voilà. Didier Fievet.
Oui, en écho à ce que vient de dire Robert, on peut dire que notre témoignage à ce lieu-là, c'est qu'on est capable d'être en désaccord sur des questions de société, sur des questions éthiques, sur des questions artistiques, culturelles. On est capable d'être en désaccord, et parfois en désaccord total, mais en même temps de se reconnaître dans ce débat comme étant frères et sœurs de la même Église, parce que ce n'est pas l'éthique qui va nous caractériser, mais la foi qui peut nous amener à avoir des positions éthiques diverses. Autrement dit, ça veut dire qu'il n'y a pas une éthique protestante, mais il y a une façon protestante de pratiquer l'éthique. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on peut partager, mais qu'on ne peut partager entre nous. Mais vous le disiez tout à l'heure à propos Est-ce que c'est un lieu ressource pour les protestants? Il n'est lieu ressource pour les protestants que s'il est en débat, s'il est en écoute, s'il est en accueil vis-à-vis du monde, vis-à-vis de toutes les productions artistiques, culturelles, philosophiques, intellectuelles d'aujourd'hui, parce que le monde est lui aussi porteur soit de critiques qui vont nous permettre d'affiner notre foi, soit d'interrogations, de quêtes, ou même de propositions qui peuvent très bien nous convertir nous-mêmes à la vérité de l'Évangile.
Alors, quand on se penche un peu sur votre association, on voit en effet que quelques-uns de vos grandes intentions, c'est donc débattre des questions qui traversent notre société, interroger le sens de la vie, voilà. Accueillir un lieu ouvert et convivial, et puis témoigner de convictions du protestantisme. Il y a quelque chose aussi qui, pour les catholiques, parfois est assez frappant, c'est-à-dire que on a l'impression que chez vous, il y a comme une culture du débat. C'est-à-dire que vous êtes habitué, en fait, à être pluriel dans vos églises et à ne pas être d'accord. Et enfin, il y a une culture de la contradiction dans le protestantisme. Alors, c'est peut-être une question très, très simple, hein, une question de néophyte, mais c'est moins une culture chez les catholiques. D'où ça vous vient, cette habitude juste...
C'est tout le sens de la réforme, je pense. Hein. C'est tout le sens Robert de la réforme, Mangado. Je pense, où la réforme a été un moment de débat, justement, et un moment de discussion et de contradiction où chacun a pu s'exprimer. Je pense que, voilà, pour aller très vite, je pense que c'est ça, et c'est cette continuité, et en se disant quand même que cette réforme, elle n'est jamais terminée, et qu'aujourd'hui encore, il faut qu'on continue ce débat et cette recherche et cette réforme, oui, c'est continuer à se réformer de cette manière-là, je pense.
Pour nous, c'est même présent dès les Écritures, c'est-à-dire dès 40-50 ans après l'événement Jésus-Christ, l'Église est déjà en débat. C'est le premier concile de Jérusalem dans le livre des Actes avec l'opposition entre Pierre et Paul. C'est le fait qu'il y ait quatre évangiles qui ne sont jamais des reportages. Sinon, il faudrait que vous m'expliquiez comment Jésus peut avoir deux fois une parole ultime, une fois chez Luc et une fois chez les autres. On ne peut pas dire, ça ne peut pas être notre dernière parole qui soit, on ne peut pas avoir deux dernières paroles, quoi, voilà. Hein. Mmh. Donc, on voit bien que chaque texte est en fait un témoignage avant d'être un reportage. Et par conséquent, il y a déjà dans les Écritures, il y a une pluralité, il y a du débat, entre la lettre de Jacques et Romain de Paul, il y a du débat entre Matthieu et Paul, il y a du débat entre Matthieu et Luc, il y a du débat. Et c'est pour nous, la foi chrétienne ne s'est jamais dit autrement que sous forme d'un débat parce qu'elle est incarnée, tout simplement.
Alors, c'est vrai, quand on se penche dans votre programme, on va maintenant regarder un petit peu plus dans le détail. Moi, j'ai pas vu non plus de soirée de débat contradictoire. Ah, peut-être que j'ai mal regardé, hein. Mais vous prenez pas un sujet de société, puis vous invitez des gens qui pensent des choses différentes. Quand vous parlez de débat à l'intérieur de cet espace culturel protestant, vous pouvez prendre un exemple ou deux qui signent cette culture du débat ou du dialogue, de conférences que vous avez eues, ou c'est des thématiques que vous avez abordées.
Je n'ai pas là en tête le thème exact, mais on a eu au Vieux Temple des débats entre diverses confessions, que ce soit le judaïsme, l'islam, l'église catholique, l'église réformée, étaient là pour débattre de, malheureusement, des sujets d'actualité un peu brûlants. Régulièrement, on reçoit des films aussi, peuvent être des lieux de débat et de débat contradictoire. On avait récemment projeté le film Vajda, c'est sûrement pas comme ça qu'on le dit, mais en gros c'est ça, qui évoque un petit peu ce thème des femmes et des difficultés. Et on avait là dans la salle et sur la tribune des personnes de confessions différentes qui étaient à même d'éclairer un petit peu ce film-là. Encore une fois, nous essayons de rechercher toutes les formes qui soient susceptibles d'amener ce débat et d'amener cette parole et d'attirer un public chaque fois différent. Quand on regarde un petit peu
Alors justement, regardons un peu plus dans le détail, si ça vous embête pas, du coup je vous aide. Donc il y a les mercredis du Vieux Temple, il y a donc des conférences, il y a des cours de théologie, il y a des présentations de livres, projections, films, etc. Si on doit commencer par les mercredis du Vieux Temple, que nous on annonce régulièrement sur notre site internet, je sais pas en quoi ça consiste, j'ai l'impression que cette année vous avez choisi comme thématique l'étranger. l'étranger.
Non, les trous.
Non, les trous. Les mondes trous.
L'étranger, c'est l'année dernière.
Ah, dites-moi.
Les mondes trous.
Et c'était pas l'étranger, c'était étrange personne. Et c'était la question de l'altérité, au fond, de ce qui fait altérité dans notre monde. Et là, ça, je prends conscience de quelque chose là, en vous écoutant, c'est qu'effectivement, nos débats ne sont pas des débats comme on les organise à la télévision, où on va distribuer une paire de gants à chaque boxeur et voir qui va rester debout. Nos débats, de toute façon, ils sont déjà entre nous. Je veux dire, dans une église protestante normale, notre adage,
sont pas d'accord,
c'est deux protestants, trois opinions. C'est cette idée que c'est bon. Voilà, si ça castagne pas, c'est que notre mental fonctionne pas. Donc, il y a la nuance, parce que il y a des accents, etc. Donc, nos débats sont des débats qui, au fond, ne sont pas des débats d'opposition frontale, mais plutôt des débats de confrontation, au sens où on s'affronte, mais ensemble, et non pas on s'affronte pas ça. Hein. Je crois que ça, il y a cette dimension-là. Et les Mercredis des Vieux Temples en sont une très bonne illustration, où on va développer une thématique. Bon, les trous cette année, bah, qu'est-ce qui fait trou? Alors, ça vous paraît bizarre, mais qu'est-ce qui fait trou?
Mettez-vous à la place du grand public.
Voilà. C'est-à-dire quoi, qu'est-ce qui fait trou dans l'évangile de Matthieu? Bah, par exemple, comment se fait-il que dans la généalogie de Jésus chez Matthieu, il n'y ait que 5 femmes? C'est alors que partout, voilà. Et encore plus, comment se fait-il qu'on nous annonce 42 générations alors qu'il n'y en a que 41? Intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire ce trou-là?
Intéressant, mais pour des gens quand même très pointus, non?
Alors, pour des gens comme très pointus, tant qu'on ne leur a pas dit. Mais si nos auditeurs se ruent sur leur truc et qu'ils comptent les générations, ils s'aperçoivent que pour en avoir 43, il y en a une qu'on répète deux fois. 42, il y en a une qu'on répète deux fois. Qu'il y en a bien une qui manque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que dans la généalogie de Jésus, on est une pierre manquante? Bah, allez demander un petit peu dans toutes les familles où il y a des secrets de famille, des choses qui ne sont pas dites, qui sont soustraites et qui pourtant pèsent leur poids et souvent leur poids de douleur, comment ça a établi une proximité inégalable entre Jésus-Christ, notre frère, quand il s'incarne, il devient notre frère. On comprend alors que Jésus-Christ, c'est vraiment celui qui accompagne nos trous dans notre vie. Vous voyez, c'est un tout petit exemple, mais c'est ça que ça veut dire.
Alors, il y a donc en dehors de ces Mercredis du Vieux Temple, de ces conférences, cours de théologie, etc., il y a aussi, donc, vous faites venir un certain nombre d'invités. Alors, il faut signaler qu'il y a une multitude d'invités, hein, des invités probablement tous prestigieux à leur manière, mais que vous recevez aussi des grands noms, je ne sais pas exactement comment il faut le dire. Hein. Vous avez reçu, entre autres, Emmanuel Carrière pour son roman Le Royaume.
Là, nous sommes dans un cas un petit peu particulier pour le CP. C'est un partenariat que nous avons avec la librairie Ombre Blanche et qui fait qu'à certains moments, certains livres sont présentés par leurs auteurs et il y a des accueillis une fois par, tu le rappelais tout à l'heure, par Pasteur ou par d'autres personnes qui débattent avec l'auteur. Mais on reçoit aussi d'autres personnes qui sont peut-être moins connues du grand public, mais qui sont des théologiens dans le cadre des cours de théologie, puisqu'il y a aussi des séries de cours de théologie qui viennent de se terminer maintenant en relation avec l'Institut protestant de théologie de Montpellier. Et il y a aussi des choses, on parlait de débats tout à l'heure. Je voudrais aussi dire que le débat, il est moins sur la tribune avec 2-3 personnes que dans la salle elle-même où chacun est appelé à donner son opinion et à dire un petit peu ce qu'il pense du sujet dont on débat ce soir-là. Donc c'est moins les, entre guillemets, les vedettes qu'on aurait sur la tribune ou les stars qu'on aurait sur la tribune que c'est aussi ça, parce que c'est eux qui sont un peu les animateurs, mais c'est dans la salle que va se passer le débat. Et puis il y a des choses aussi auxquelles on tient, je pense à cette chorale de femmes jordaniennes et israéliennes, palestiniennes et israéliennes qui sont venus là témoigner par leur chant dans ce lieu-là. Voilà des choses qui sont peut-être moins de débats, mais des lieux de témoignage aussi.
Peut-être pour finir, Didier Fievé, si vous vouliez rebondir sur quelques-unes des stars, je sais que vous n'aimez pas ça, mais qui sont intervenues, des interventions récentes qui vous ont marqué peut-être par leur force ou leur hauteur de vue et qui peut aider à faire de la publicité pour votre espace culturel.
Ah, ben j'ai... Vous n'avez pas de chance avec moi, je ne suis pas un staromane, donc je ne sais pas. Il y a eu, vous avez cité, il y a eu Carrère et son livre, il y a eu Michel Serres, il y a des grands noms comme ça. Mais au fond, comme le vient de dire Robert, nous sommes très attachés à la non-starification du système. Nous sommes très attachés au fond à ce que le débat, ce soit notre débat. Nous avons cette conviction profonde que quand Dieu prend la parole, c'est pour nous donner la parole. Et non pas pour nous la confisquer. Et du coup, on va se méfier de toute parole surplombante. Et si on invite quelqu'un comme ça, qui a pignon sur rue, à juste titre sans doute, vous parliez d'Emmanuel Carrère. Moi, ce qui va m'intéresser dans Emmanuel Carrère, c'est un débat qu'a eu le pasteur avec lui sur qu'est-ce qui différencie le Jésus de l'histoire du Christ de la foi. Et pour moi, bien évidemment, je l'ai dit, l'Écriture n'est pas le Jésus de l'histoire. D'ailleurs, tous les contemporains du Jésus de l'histoire n'ont pas été croyants. Ça a même été une petite minorité, et même une ultra petite minorité, sur lesquels on n'aurait pas misé un seul copec pour penser que 2 ou 3 000 ans après, il y aurait encore du christianisme. Donc, ce qui compte, au fond, c'est ce qui est découvert dans la foi et qui nous rend contemporains de Jésus-Christ, et non pas l'enquête historique qu'a fait Carrère, après celle qu'avait faite Duquesne, et après celle, etc., où on nous dit « on va vous dire le vrai Jésus ». Mais non, ils vont nous dire le vrai Jésus peut-être de l'histoire, mais ce vrai Jésus de l'histoire a finalement peu d'importance, dans la mesure où il n'aurait pas imprimé de la foi, fait foi, dans le cœur de quelques contemporains. Et c'est là, dans les Écritures, qu'il convient d'aller puiser la trace de cette foi.
Des fringues qu'on va porter, les fleurs des champs si éphémères sont vêtues de manière extraordinaire. Cherchez le royaume de Dieu, tout vous sera donné en plus. Cherchez le royaume de Dieu, tout vous sera donné en plus. Que sera ma vie demain? Tiendrai-je la main de quelqu'un? J'en sais rien.
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 Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À quoi ça sert donc de stresser? Qui peut apporter force de soucis rallonge le cours de sa vie. Demain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Demain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Cherchez le royaume de Dieu, tout vous sera donné en plus. Cherchez le royaume de Dieu, tout vous sera donné en plus. Cherchez le royaume de Dieu, tout vous sera donné en plus.
Présence dans le Lauragais 97.9.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, ce matin, donc, cette émission Vivante Église pour partir à la rencontre donc, des protestants et particulièrement de l'espace culturel protestant à Toulouse avec Didier Fievé qui est pasteur de l'Église protestante unie de France, Robert Mangado qui est membre de cet espace culturel et François Vouga qui est donc professeur de Nouveau Testament à l'Université de Wuppertal et qui nous a rejoint par téléphone. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Voilà, alors peut-être il faut dire un petit mot d'introduction, et je vais laisser pour ça très rapidement Didier Fievé le dire. Et, voilà, il paraît que vous êtes monsieur Vouga, comment dire, fort calé, n'est-ce pas?
Bonjour François, écoute, c'est bien qu'on soit par la radio, parce que ce que je vais dire de toi rapidement, c'est qu'effectivement tu es, je crois, une des figures éminentes de l'exégèse néo-testamentaire. Je vais signaler, parce que ça va introduire ta conférence de demain soir, le fait que tu aies publié au moins deux livres qui peuvent parler au grand public, à savoir Le politique du Nouveau Testament, et puis, alors j'ai peut-être, je me souviens plus tout à fait du titre, et puis un des derniers que tu as publié qui s'appelle La dette, et on voit bien tout l'intérêt qu'il y a, et pour ceux qui voudraient comprendre la connexion, tu as notamment dans le
Alors, attendez, je vous arrête parce que c'est pas une émission de spécialistes. En tout cas, ce que voulait dire Didier Fievé, c'est que voilà, vous êtes un professeur éminent et on est très heureux de vous recevoir. En tout cas, demain, vous donnez une conférence donc à cet espace culturel protestant sur un sujet qui lui aussi semble très pointu, mais vous allez nous aider à faire la version grand public qui s'appelle l'actualité des dimensions politiques et sociales de l'apport réformé devant la détresse des démocraties. Et surtout, enfin, donc, vous allez vous baser sur, entre autres, un certain Zwingli. Alors, oui. Pour nos auditeurs, je vous préviens, Zwingli, c'est, je pense, pour beaucoup du chinois, mais vous allez nous aider et je vais vous introduire. Donc, en tout cas, c'est un homme donc, qui est né, comment dire, au XVIe siècle, donc à l'époque de la Réforme, qui a grandi dans un monde paysan et qui, petit à petit, va devenir, lui aussi, un réformé. Comment vous présenteriez de manière général, ce monsieur Zwingli, et pourquoi est-ce qu'on considère que c'est un des piliers de la réforme?
Alors, Zwingli était prêtre de paroisse, aumônier militaire. Il est né à la fin du 15e, pratiquement en même temps que Luther, et il est en fait l'architecte du protestantisme et de la réforme, aussi bien en Suisse qu'en France, à partir de la ville de Zurich et en collaboration avec la ville autonome de Zurich. Donc il faut dire que Zwingli a une dimension tout à fait semblable à celle de Luther, et que Luther et Zwingli sont les deux grands initiateurs de la réforme, Calvin venant une génération après.
Voilà. Donc, alors, si vous deviez donc à gros traits résumer la vie de cet homme, donc il naît dans une famille paysanne, j'ai lu fortunée et religieuse, c'est quelqu'un de très lettré, de très éduqué,
oui.
Et qui en fait commence quoi, une carrière quoi de prêtre, c'est ça en fait?
De prêtre.
Enfin, commencer une carrière, le mot est mal choisi, hein, mais oui.
Il assiste au massacre de Marignan, il est très choqué, pose la question d'une civilisation qui était la civilisation suisse à l'époque, qui vit du service mercenaire, et met en évidence les injustices et le malheur que crée la recherche de l'argent et la soumission à un marché extérieur. Au fond, il a trois arguments. Le premier argument, c'est que le service mercenaire crée une dépendance économique. Là, on voulait la dépendance politique.
Alors, juste, qu'est-ce que c'est que ce service missionnaire, en fait ? Est-ce que vous pouvez expliquer ?
Oui, c'est que les paysans de la Suisse primitive ont vendu leurs services aux armées étrangères pour gagner leur argent. Et que la Suisse a vécu un certain nombre de décennies de l'argent ramené du service militaire à l'étranger.
D'accord.
Alors après... La deuxième chose qu'il met en évidence, c'est que la recherche de l'argent crée chez les gens une sorte de perdition, parce qu'au fond, les gens ne voient plus où est leur bonheur et sont prêts à sacrifier leur vie et sacrifier leur famille pour de l'argent. Et puis troisièmement, que cette dépendance de l'extérieur crée des inégalités, un manque de solidarité à l'intérieur du pays, parce qu'on voit la fourchette entre les riches qui organisent le service extérieur et les pauvres qui s'engagent grandir de plus en plus.
Alors qu'est-ce qui fait que cet homme est devenu un des premiers réformateurs ? Quels ont été les objets de son différend avec les catholiques ? Quelles ont été ses réflexions qui l'ont amené justement à devenir ce réformateur ?
Alors, son engagement social a intéressé la ville de Zurich. Et la ville de Zurich a fait appel à lui pour réformer l'église de Zurich et pour réformer la vie sociale à Zurich. C'est au fond ça qui a été le point de départ. Au fond, c'est très intéressant parce que Luther, de son côté, s'intéressait ou était passionné par la question de la certitude du salut, une perspective individuelle. Zwingli est intéressé beaucoup plus par la question de la justice sociale et par la question de l'organisation politique de la cité. Raison pour laquelle je lis ces racines de la tradition réformée à la question de la justice sociale et de la démocratie.
D'accord, mais alors du coup, quel a été son différend du coup avec l'Église catholique ? J'ai pas tout à fait compris en fait. Là vous dites que c'est son point d'attention, mais en quoi son différend avec l'Église catholique l'a amené à devenir réformé sur ce sujet particulier ?
Alors, ce qui l'a amené à être réformé, c'est que, arrivant à la cathédrale de Zurich, il a commencé par réformer le culte à la cathédrale. Et au fond, ce qui l'intéressait, c'était la formation et l'autonomie des croyants et des citoyens de la ville. Alors, il a commencé par prêcher sur l'évangile de Matthieu de manière continue, parce qu'il voulait donner une culture biblique aux gens de la ville. Il a supprimé la messe et introduit une communion, un repas du Seigneur, qui était mémoire du sacrifice de Jésus et non plus répétition du sacrifice. Et il a commencé par réformer dans la ville toute la pratique religieuse en fonction du Nouveau Testament. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il fait partie de la tradition humaniste, qu'il était un ami d'Erasme, qui était à Bâle, et que au nom de l'humanisme, il voulait revenir aux sources de l'Évangile. Et revenant aux sources de l'Évangile, il a réformé la pratique ecclésiale à Zurich.
D'accord. Alors donc, ces précisions faites, moi j'ai cru comprendre aussi qu'il y a eu quelques différends, même avec Luther. Est-ce que vous voulez apporter quelques précisions, peut-être Didier Fievet, sur les motifs qui l'ont conduit à devenir réformateur ?
Non, pas du tout. François a très très bien dit ça.
Quel a été le différent avec Luther ?
Le différent avec Luther tournait essentiellement autour de la Sainte Cène, hein, c'est-à-dire de ce que vous appelez, de ce qu'on appelle la communion ou l'Eucharistie, hein, avec deux compréhensions différentes, peut-être déjà illustrées par le fait que pour Luther, la question était effectivement, comme l'a dit François, éminemment, j'allais dire, personnelle, singulière, et tandis que pour Zwingli, elle va être plus axée sur le témoignage dans la cité, témoignage de ce que l'esprit crée une communauté fraternelle et qui se manifeste dans le souvenir, dans la célébration du souvenir, mais qui témoigne dans la cité. Mais François dirait ça bien mieux que moi. Là.
François Bougain.
Oui. Alors, les grands différends avec Luther sont les suivants. Donc, Luther a grandi dans un univers germanique et Luther se soumet au prince, alors que Zwingli va collaborer avec le conseil de la ville de Zurich. Ça, c'est la première chose. Donc, le conseil de la ville de Zurich et Zwingli vont affirmer leur indépendance par rapport à l'évêque de Constance et par rapport au pape. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est effectivement un compréhension différente de la Sainte Cène, et c'est sur ce point-là qu'ils se sont séparés, c'est que Luther tient, comme l'Église catholique, à la transubstantiation, tandis que pour Zwingli, le pain et la coupe de ce que vous appelez l'Eucharistie n'est plus que le signe ou le rappel ou le mémorial du don que Jésus a fait de sa vie, mais au fond n'est pas un sacrement ou n'est pas un don matériel du salut, mais simplement un rappel et un symbole. Voilà, et alors c'est là l'affirmation que Luther n'a pas accepté, et c'est sur ce point qu'ils se sont séparés.
Voilà, en tout cas Zwingli, donc, c'était un personnage à découvrir. On rappelle le titre de la conférence de demain soir, donc à l'espace culturel protestant, donc à Toulouse, l'actualité des dimensions politiques et sociales de l'apport réformé devant la détresse des démocraties. Ça sera avec vous, François Vouga. Si on devait finir pour parler peut-être des 500 ans de la réforme, est-ce qu'il y a des grands événements qui sont programmés dans cet espace culturel protestant à l'occasion de ces 500 ans de la réforme, Robert Mongado?
Oui, nous avons actuellement une exposition qui est en place, qui est encore en place pendant une dizaine de jours. Autour de cette exposition, donc, des animations, nous avons eu le pasteur Jacon qui nous a parlé un peu de Luther et du mariage. Demain soir, donc, nous avons monsieur Vouga qui parle de Zwingli. Dans le courant du mois de juin, les églises protestantes de Toulouse, Église baptiste, Église évangélique réformée, etc., se réunissent pour projeter un film, le film de Luther. Voilà, autant d'animations autour de cette exposition. L'exposition a été un peu le central de toutes ces animations qui ont autour. Voilà.
Voilà, ben merci beaucoup à nos invités d'être venus pour ce court voyage dans le monde protestant toulousain, et donc pour parler de cet espace culturel protestant. On rappelle l'adresse 70 rue Pargaminière, c'est donc à Toulouse, près du Capitole. Merci beaucoup.
C'est nous.
Cette émission a été réalisée par Francky Guéret. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00, ou par mail à contact@radioprésence.com.